train de regarder nos écrans de TV sur lesquels il y a des canaux de nouvelles. Et on nous a parlé tantôt d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ce qui est une très bonne nouvelle. Puis on s'est dit, tiens, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, on va aller rejoindre notre chum Louis Gauthier, qui est chroniqueur international. Salut Louis!
Hey, bonjour Québec!
C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là? Dans 5 jours, le gros orangé va prendre place comme président des États-Unis. Est-ce qu'on essaie de régler les affaires avant que lui décide de les régler lui-même?
Bien, c'est ce qu'il avait envoyé comme message il y a quelques semaines. Il fallait que ça se règle dans la bande de Gaza. S'il reste des otages, les libérer, régler le problème. Puis, d'après moi, demain, on va attendre un genre d'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah dans le Liban Sud. Mais ça, c'est moins grave, là, parce qu'il n'y a pas d'otages, il n'y a pas de prisonniers de guerre, là. Puis, écoute, on se prépare parce que je te dirais que la grande boule planétaire va arrêter de tourner à midi lundi prochain pour la sermentation.
Ça va être le freak show.
Le freak show avec Village People.
Oui, exact. Tout le monde va danser.
Je me demande vraiment s'il va danser ça. On en parle beaucoup, mais c'est très protocolaire, hein, la sermentation. Ça me surprendrait qu'il fasse ça.
Pascal s'en peut plus. Elle a tellement hâte de voir la sermentation de Donald Trump, là. Je pense qu'elle va arrêter. Oui.
Avec masque et tout.
Oui.
Est-ce que tu vas faire, Pascal, est-ce que tu vas faire comme Michelle Obama? Tu n'y assisteras pas, tu vas aller te faire faire les ongles.
Ça fait ça pour vrai?
Regarde, c'est le talk of the town de l'autre côté de la frontière où je me trouve.
Il faut sortir les poubelles jour-là.
Oui, c'est ça. Donc là, il y a un cessez-le-feu entre le Israël et le Hamas. Est-ce qu'on pourrait voir d'ici 5 jours une entente entre l'Ukraine et la Russie?
Ça me surprendrait un petit peu, mais au moins, on va se tenir tranquille. On va se tenir tranquille parce que, comme je l'ai expliqué dans les réseaux ce matin, il y a près de 100 décrets exécutifs que Donald Trump va signer une fois qu'il sera le 47e président. Puis, contrairement à ce qui est arrivé il y a 4 ans, on dit entre 50 et 100 décrets, le premier étant sur la déportation des criminels immigrants à la frontière. Ça, c'est un peu normal. Donc, ça, c'est le premier qui va être exécutoire. Et dans les autres décrets exécutifs, on pourrait en retrouver un concernant le conflit russo-ukrainien. Puis, c'est pour ça que les Russes et les Ukrainiens vont se tenir tranquilles, tout comme les Chinois dans la baie de Taïwan, la baie de Taipei, pardon, en Taïwan. Ça va se tenir tranquille la semaine prochaine. Je te dirais là, qu'on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec les fameux décrets. Puis ce sont tous des décrets que Donald Trump, avec son équipe, ont tout préparé, tout était prêt, même avant le 6 novembre au matin. Là, on avait déjà commencé à en rédiger quelques-uns.
Okay. Pourquoi on n'a pas attendu l'élection de Donald Trump? Pourquoi on n'a pas attendu que Donald Trump soit président pour passer ces fameux décrets-là?
Bien, parce que c'est le privilège du nouveau président de signer des décrets exécutifs. Chaque président américain, lorsqu'il est assermenté, a signé des décrets exécutifs. On s'en souviendra, il y a 4 ans, ça avait fait « the talk of the town ». Joe Biden en avait signé à peu près 35, puis il ne savait même pas ce qu'il signait, parce qu'il ne savait même pas qu'il avait ça à signer. Alors, ça y avait tout été poussé sur la table du bureau ovale. Et là, on en parle, il y en a beaucoup. Il va en avoir pour l'après-midi, puis peut-être une partie de la soirée. Là. Une fois que les photos sont prises dans le bureau ovale avec le premier décret exécutif, comme je vous dis, qu'il va signer concernant la sécurité à la frontière sud. Puis ça, tu sais, il y en a qui jasent, mais vous devez comprendre qu'il n'y a pas personne qui va avoir des criminels venant d'un autre pays qui séjournent dans son pays présentement. Donc, ce sont ceux-ci qui devront être déportés. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une nouvelle qui est sortie hier. Il y a 535 prisonniers depuis 2021 à Cuba qui seront libérés parce que Joe Biden, hier, a signé un décret comme de quoi qu'il enlevait l'île de Cuba sur la liste noire des pays sympathisants envers les groupes terroristes. Puis ça, c'est encore l'herbe qui est coupée sur le pied du président, un autre petit jambette qui est fait avant qu'il parte. Parce que là, il y en a 535 qui risquent de revenir aux États-Unis. Puis, on ne sait même pas si ce sont tous des Américains. Donc, ça risque de créer une autre affluence, une compression à la frontière sud ou par les voies maritimes. Puis, on ne sait même pas d'où viennent ces gens-là. Puis, ça fait partie des jambettes que l'administration Biden est en train de faire. Parce que je ne vous cacherai pas que les démocrates sont derrière leur dernier rempart pour essayer de bloquer toutes les nominations là, qui sont en train de se faire depuis hier devant les comités du Sénat et du Congrès.
Est-ce que ça t'agace de voir Elon Musk aussi près de Donald Trump? Est-ce que ça t'agace de voir le volte-face du propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg, qui décide, lui, qu'il se rapproche de plus en plus du président des États-Unis, ou de ses idées, du moins? Moi, des hommes puissants, j'aimerais ça qu'ils se tiennent loin de la politique, là.
Bien, écoute, Elon Musk, Tom Vivek Ramaswamy sont des gens qui n'ont pas besoin de l'approbation du Sénat pour avoir leur poste. T'sais, sur les 95 nominations, il y en a 28 qui n'ont pas besoin de l'approbation du Sénat. Puis Elon Musk et Vivek Ramaswamy ne font pas partie de ceux-là parce qu'ils ont un mandat de 18 mois pour reformer l'appareil gouvernemental. Pourquoi? Puis je vais revenir à Mark Zuckerberg après, parce que c'est important ce que j'ai à vous dire là. Il y a 18 mois, Elon Musk pour faire la job, parce que présentement, avec tout ce que Donald Trump a annoncé, c'est pas demain la veille que ça risque de tout se faire, incluant l'augmentation des tarifs de 25 %. Parce qu'il y a plus de 600 personnes, des fonctionnaires qu'on appelle, qui travaillent à la Maison-Blanche, et 50 % de ceux-ci sont des nominations démocrates. Pardon. Donc, Susie Wiles, la chef de l'État-major, ce qu'on appelle la chief of staff, elle a une méchante job à faire. Donc, les 18 prochains mois, il va y avoir énormément de travail de tractation qui va se faire à la Maison-Blanche. Maintenant, pour Mark Zuckerberg, si vous avez écouté le podcast qu'il a fait avec Joe Rogan la semaine dernière, c'est quand même important, puis il expliquait pourquoi. Parce que il s'est lancé, on sait que c'est un libéral, Mark Zuckerberg, ça fait partie de cette génération-là. On sait que dans les médias, c'est beaucoup plus un peu plus libéral pour la liberté d'expression, mais ça a changé beaucoup. Mais lui, on lui a demandé de faire une job sale en pensant qu'il allait avoir quelque chose en retour, puis il n'a pas eu les retours. Puis lorsqu'il y a eu finalement les podcasteurs, puis il y a des gens en Europe qui ont été assassinés, qui ont disparu, puis que le gouvernement américain n'a rien fait pour protéger ces gens-là, bien, lui, ça y a levé, il a le flag. Il dit, bien là, s'ils ne font pas ça, s'ils ne parlent pas, ils nous demandent de faire quelque chose, mais on n'a rien en retour. Avec ce qui est arrivé au Canada également, sur l'imposition des règles de diffusion concernant ce qu'on peut mettre sur Facebook, sur Twitter et tout ça, provenant du Canada ou des États-Unis venant du Canada, c'est une décision qui fait perdre des milliers de dollars à des entreprises américaines qui font affaire dans le libre-échange avec le Canada. Donc, Mark Zuckerberg n'a pas apprécié ça, puis c'est pour ça qu'il a changé son fusil d'épaule. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va cogner à Maison-Blanche puis faire sa Danielle Smith de ce monde pour aller manger un burger à Mar-a-Lago là, pendant une couple de jours.
Oui, mais il fait juste en fait protéger aussi ses actifs personnels, là, puis c'est tout ce qu'il a construit après plusieurs années. Mais tu sais, avec toi qu'on en parlait, que mettons un Donald Trump et un Elon Musk aussi risquent de se pogner parce que les deux sont friands de pouvoir puis de contrôle sur certaines affaires, puis c'est quand même deux indépendants de fortune.
Quand ça va foirer, ça va être effectivement un enfer.
Bien, présentement, le président américain a un pouvoir, puis on va voir vraiment c'est quoi le pouvoir du président américain, ce qu'on n'a pas vu au cours des quatre dernières années. D'ailleurs, je vous parlais de la faiblesse de la gouvernance occidentale. Ça, c'est ça qui risque de changer. Maintenant, est-ce que Elon Musk, c'est une bombe à retardement? Je ne le sais pas. C'est sûr que lui, ça fait son affaire de s'adjoindre au président américain ou à la Maison-Blanche parce que ça allait vraiment pas bien pour son Twitter. On le voit, là. Il est présentement sous l'égide d'une poursuite probablement par le marché boursier aux États-Unis pour ne pas avoir fait une déclaration d'intérêt lorsqu'il a acheté Twitter, là, qui est devenu X. Donc, vous voyez, c'est loin d'être fini. Je suis pas sûr qu'il va aller se mettre à dos le gouvernement américain, compte tenu qu'il risque de payer pas loin de 2 milliards de dollars en pénalité d'intérêt.
Puis là, ben, est-ce que ce sera le nouveau propriétaire de TikTok, Elon Musk?
Ben écoute, je suis en train de me demander si c'est lui qui va être propriétaire de TikTok ou bien c'est Mark Zuckerberg qui a fait volte-face pour éviter qu'Elon Musk soit propriétaire de TikTok et que c'est lui qui devienne propriétaire de TikTok.
La course est lancée. Hey, je veux parler de ça, mais je profite du fait que tu es aux États-Unis. Est-ce qu'on parle des incendies qui font rage à Los Angeles autant qu'on en parle au Québec là-bas?
Bien, écoute, là, ce qui fait faire jaser énormément, c'est la grosse compagnie d'assurance State Farm qui est sur le point d'annoncer qu'elle ne réassurera pas les gens qui font des réclamations. Une fois, là, ils vont payer, là, mais une fois que ces gens-là se reconstruisent, State Farm ne les reprendra pas comme clients.
Mais tu sais, des maisons de 30, 40, 50, 60 millions, cette compagnie-là est encore chanceuse.
Tu peux monter, mais le problème qu'ils risquent d'avoir sur les lois de reconstruction en Californie, c'est que ces gens-là ne puissent pas se reconstruire sur les lieux où ils sont présentement. Sans ça, ils devront se trouver une co-assurance, comme les Lloyd's de Londres qui assurent ce genre de risque-là. Ils risquent d'avoir des augmentations pas loin de 50 % de la prime d'assurance si on décide de se reconstruire là. Puis, s'ils réussissent à se reconstruire, parce que de toute évidence, je t'annonce que Gavin Newsom puis la mairesse, il y en a une couple qui risque de perdre leur job là, à l'automne. Parce que si ça ne se règle pas en faveur des sinistrés, ça ira pas bien. Puis, je ne te cacherai pas qu'il y a une histoire de mauvaise nouvelle pour des sinistrés. Je pense à l'ouragan Helene qui a frappé l'automne dernier, plus dans le centre-est des États-Unis. Parlez-en aux gens de la Caroline du Nord. Ça a eu un incident sur le résultat de l'élection pour une swing state. Donc, on a vu ce que ça a donné. Il ne faudra pas que ça arrive la même chose parce qu'il va y avoir des élections de mi-mandat dans 2 ans. Puis l'histoire des feux de la Californie, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'eau, d'autant plus que les équipements étaient déficitaires, d'autant plus qu'on était lent à reprendre, d'autant plus que FEMA a pris 48 heures avant d'intervenir sur les lieux. Bien, c'est tous des facteurs qu'il faut garder en mémoire parce que ça risque de nous péter d'en face dans moins de 2 ans lors des midterms.
On a des CL-415 qui étaient sur place, dont un qui a été frappé par... qui a frappé un drone. Là. On en renvoie 2 autres, de ce que je comprends, dans les dernières heures, là, qui vont prendre la direction de Los Angeles.
Oui, il y en a, qui sortent, qui viennent de l'Ouest canadien parce qu'on est très près, l'Alberta, la Colombie-Britannique. C'est tout de suite l'État de Washington, l'Oregon, la Californie. Je suis à 12 heures là, des feux là, où je me trouve présentement. Donc, on est très près. Il y a énormément d'avions du genre ici même aux États-Unis, dans le Montana, dans le Wyoming, qui sont sur place, qui ont été dépêchés sur place justement pour aider à combattre le feu. Mais ça va prendre encore une bonne grosse semaine avant de colmater l'incendie, d'autant plus qu'on a eu des problèmes d'extinction tout de suite en partant parce que les équipements ne fonctionnaient pas et il n'y avait pas d'eau dans les réservoirs. Ça, je te jure, là, il va y avoir des poursuites, pas de millions, mais de milliards de dollars contre l'État de la Californie et contre la ville de Hollywood et toutes les villes qui sont autour, là, Burbank.
Mais qui a pris ces décisions-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'équipement n'était pas vérifié et adéquat? T'sais, j'ai entendu parler d'une histoire où, dans un certain canal, là, il y avait un poisson qu'on voulait sauver, puis on a dit, ben si on emmagasine trop d'eau, on gardera pas cette forme de poisson-là dans ce ruisseau-là, exemple de cette rivière-là. Puis on a décidé de ne pas prendre l'eau puis laisser le poisson tranquille, ce qui fait en sorte qu'on se retrouvait avec un déficit de réserve d'eau. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. Puis j'ai regardé les images tantôt, là, je ne sais pas si c'est Pacific Highway ou si c'est la 1, mais je passais là en moto. C'est la fameuse rue là, où tu passes, puis les maisons là, sont une à côté de l'autre, puis ils ont une plage. C'est l'océan qui est carrément en face d'eux, c'est Malibu là, dans ce secteur-là.
Oh, oui.
Il ne reste plus rien alors qu'ils sont à côté des plantes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que tu dois comprendre, Yannick, il y a à peu près 6 ans de ça, la démarche a été présentée par des droits ancestraux des Premières Nations ici, là, dans le secteur, pour déclarer, je te dirais, des secteurs, sites patrimoniales, dont des lacs, dont, juste te donner un exemple, là, il y a un gros débat. Là, je vais passer bientôt près du grand lac salé là, de Salt Lake City.
Ouais.
Puis ça, présentement, ce lac-là fait partie du patrimoine national. Puis il y a une réserve d'eau qui se prend dedans. Puis on est en train de se battre pour enlever la réserve d'eau de là, pour aller avec de l'eau de schiste, de l'eau en terre et tout ça. Donc, c'est ce qui est arrivé en Californie. On a interdit l'alimentation en eau des réservoirs municipaux de ces lacs-là parce qu'ils se retrouvaient en territoires protégés ancestraux des Premières Nations. Puis c'est ce qui fait jaser beaucoup. Donc, quand tu entends l'histoire de poissons, là, c'est tout relié à ces histoires-là. Puis ça, c'est vu que ça avait commencé il y a 6 ans, bien, je te dirais que c'est depuis 3 ans qu'ils ont gagné leur cause devant la Cour suprême des États-Unis. Ça s'est réglé hors cours, puis c'est des ententes qui ont été signées entre le gouvernement américain et les tribus des Premières Nations.
Ouais, puis il y a eu des questionnements aussi sur l'équipe de pompiers qui s'affairait, qui était sur place et tout ça, mais les prises de décision étaient faites par les gestionnaires, des gens qui ont travaillé pour les services d'incendie. Puis il y a eu des nominations dans les dernières années qui ont fait beaucoup parler. Là. On n'aurait peut-être pas choisi les meilleurs candidats pour les bonnes raisons. Là.
Bien, c'est un peu la même raison pourquoi Peter Hegseth, qui est le prochain secrétaire d'État à la Défense, qui s'est fait poivrer hier, parce que c'est lui qui était devant le comité là, mené par des démocrates, parce que lui veut changer la culture qui a été imposée dans l'armée américaine, cette fameuse culture de wokisme. Là. Si on a entendu parler de l'histoire de tampons dans les toilettes d'hommes, là, bien, c'est à peu près la même chose qui est arrivée. Juste pour vous dire, là, je m'en vais peut-être dans l'État le plus woke des États-Unis, l'Oregon, la ville de Portland, c'est le siège social du wokisme aux États-Unis. Je vous cacherai pas que là, ils commencent à manger puis à se promener avec un sac de papier brun sur la tête parce qu'ils ont de l'air fou avec les décisions qu'ils ont prises. T'sais, ils ont été avec, je te dirais, l'inclusivité plutôt que la qualité, la compétence depuis 4-5 ans. Puis là, ben, on en voit le résultat.
Donc, tu avais plus de chances, si tu faisais partie de la communauté LGBTQ+2, de rentrer pour le service des incendies que si tu étais quelqu'un qui avait des bonnes notes à l'école puis tu performais. Là.
Disons qu'un gars blanc marié, caucasien, catholique, il n'y a pas de chance d'avoir une job. Même s'il y a des études postdoctorales pour éteindre une allumette.
Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bon séjour aux États-Unis. Puis on a hâte de te revoir en studio, mon ami.
Ben oui, ça devrait se faire d'ici 2 semaines, mais c'est donc plate. Ça aurait été très important. On aurait eu des discussions songées la semaine prochaine, mais je ne serai pas là. Puis, parce qu'en présence de Jacinthe, puis notre ami Pascal, ça aurait été merveilleux, là. C'est, le quotient intellectuel aurait extrêmement augmenté en studio.
Est-ce qu'on se départ de Yannick ou de Yannick. L'arrivée de Jacinthe? Nous ne le savons pas.
Ben non, mais Jacinthe, Pascal et moi, ça aurait été d'une conscience intellectuelle sublime.
Oui, ça aurait été aussi palpitant que d'être dans une bibliothèque en silence. Salut!
Hey, bonjour tout le monde!
Bye, mon ami. Bye-bye. L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international à qui on aime bien jaser chaque semaine. Il sera pas là la semaine prochaine?
Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre.
OK. Ben, tu jaseras de ça avec lui. Là. Moi, j'aime bien ça quand il est là chaque semaine. Nous autres, on s'en va en musique. The Killers, Mr. Brightside sur les ondes de Boulevard. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021.